À toi, Roger.
Moi, je voudrais quand même vous dire que je ne suis pas historien de la franc-maçonnerie. Je suis médecin, anatomopathologiste. J'enseigne à l'université de Paris 7 Denis Diderot, où j'ai fait mes études, et qui est donc ma mère, parce que je ne suis jamais sorti de cette université, ce qui est assez curieux. Je dirige à Paris un important laboratoire de dépistage et de diagnostic des cancers génitaux féminins, et je préside un institut de santé publique qui s'appelle l'Institut Alfred Fournier, qui a été fondé en 1934, sous le joli nom de Ligue nationale française de lutte contre le péril vénérien. Et donc, je raconte ça parce que c'est toujours un truc assez drôle. Et quand je suis devenu président de cette fondation, j'ai immédiatement mis à l'ordre du jour le changement de nom. Parce qu'on m'a dit, mais tu ne sais pas tout. Tu, en devenant président de la Ligue nationale française de lutte contre le péril vénérien, tu es de droit président d'une autre association. Ah oui, là je commence à m'inquiéter. Et puis, comment s'appelle-t-elle? Ah, celle-là, elle a été fondée en 1904 et elle s'appelle Société française de prophylaxie sanitaire et morale. Je dis donc qu'il est urgent de changer tout ça. Voilà, mais ça m'a permis de faire l'histoire de cette institution. Et puis, bien entendu, je suis membre de la loge nationale française et pas de la grande loge nationale française. Je suis membre de ce que j'appelle souvent la petite loge nationale française et qui entend le rester, qui a été fondée en 1968 à partir de la grande loge traditionnelle et symbolique opéra et donc et que j'ai présidé pendant quelques années, il y a maintenant pas mal de temps. Voilà. Et puis je dirige depuis 20 ans la revue Renaissance traditionnelle, qui est une revue d'érudition dans le domaine de l'histoire et des sources traditionnelles de la franc-maçonnerie. Et c'est peut-être un peu à ce titre-là que vous avez souhaité m'inviter, ce dont je vous remercie. Alors, le thème que vous avez choisi d'étudier cette année, la tradition, j'ai cru comprendre que vous le déclinez de trois manières. D'abord sous l'angle un peu sociologique, je crois que c'était ce qui a été fait la dernière fois. Et puis, aujourd'hui, peut-être sous un éclairage plus historique. Et je crois savoir que vous voulez aussi l'envisager sous l'angle purement philosophique. Bien. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est trois choses. D'abord, qu'est-ce que l'historien peut avoir à dire de la notion de tradition? Ensuite, quels sont les enjeux, et aussi d'ailleurs en partie les équivoques de cette notion dans la pensée moderne, au sens guénonien du mot « moderne », c'est-à-dire tout ce qui est postérieur au siècle des Lumières. Et puis enfin, peut-être aussi, parce que malgré tout, nous avons une autre caractéristique commune, c'est que nous sommes tous maçons, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui la notion de tradition dans la vie maçonnique? Et là aussi, il y a un certain nombre de non-dits ou de mal-dits qui créent des problèmes sur lesquels nous pouvons au moins réfléchir. Alors, je n'ai malheureusement pas eu le loisir d'être avec vous la fois précédente, mais en regardant simplement le titre qui avait été donné à la présentation, « La tradition, une pratique sociale inventée », un nom m'a traversé l'esprit, Eric Hobsbawm. Voilà, bingo. Alors, évidemment, j'ai écrit un livre d'ailleurs que tu m'avais signé tout à l'heure, il y a 2 ans, qui s'appelle « L'invention de la franc-maçonnerie », et dans l'épilogue, j'explique que ce qui m'a conduit à réfléchir à l'écriture d'un tel livre il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est la découverte, au milieu des années 80, d'un livre absolument fondamental d'Eric Hobsbawm, qui s'appelle « The Invention of Tradition » et qui, extraordinairement, a mis 20 ans avant d'être traduit en français, puisqu'on a fait une traduction française en 2006 ou en 2007, alors que c'est un livre absolument fondamental. Et Eric Hobsbawm, qui est évidemment un historien de la modernité, a forger et illustrer ce concept de la tradition pratique sociale inventée. Et je pense que c'est un des grands acquis, mais vraiment un des grands acquis de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle au XXe siècle, pour montrer que la tradition, c'est souvent un ensemble de pratiques qu'une société ou un groupe met en place à un moment donné de sa trajectoire historique pour tenter d'exorciser le sentiment de déréliction que le groupe ou que la communauté éprouve devant le temps qui passe et par conséquent, l'effacement des structures, l'effacement des individus, l'effacement des filiations. Et il a magnifiquement illustré ça, par exemple, avec tous les fastes de la monarchie britannique, en montrant que l'essentiel des institutions dites traditionnelles de la monarchie britannique, l'essentiel, par exemple, des pratiques culturelles de l'Écosse, avec toute la culture des clans, des tartans, rapportée à un passé, selon une très belle expression que les francs-maçons anglais d'ailleurs adorent, à un passé time immemorial, en réalité, ne vont pas au-delà du début ou du milieu du XVIIIe siècle, voire souvent du début du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on s'est forgé un passé traditionnel pour donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et Eric Hobsbawm ne s'est jamais spécifiquement intéressé à la franc-maçonnerie, ça n'est pas son champ de recherche, mais dans ce livre qui doit faire 300 pages, il y a une petite mention, dans un des premiers, peut-être même dans la préface, une petite mention où il fait une allusion très passagère, fugitive à la franc-maçonnerie, non pas parce qu'il s'y intéresse, mais parce que un historien anglais ne peut pas ne pas rencontrer la franc-maçonnerie à un moment quelconque de sa recherche, parce que l'institution occupe une place considérable dans la culture britannique. Et il dit, et d'ailleurs, la franc-maçonnerie est probablement en Angleterre l'une des plus brillantes de ces traditions inventées. Et puis il termine sa phrase, et puis il parle d'autre chose. Et donc je me suis dit, vous connaissez le fameux mot dans la préface de Notre-Dame de Paris, où Victor Hugo explique qu'un jour il se balade dans les tours de Notre-Dame, et puis au détour d'une tour, il voit gravé sur un mur, d'une main malhabile, le mot grec « ananke », le destin. Et il explique dans sa préface, mais c'est évidemment une astuce de romancier, sur ce mot, on a fait un livre. Eh bien, d'une certaine manière, moi, c'est la phrase de Hobsbawm qui m'a donné envie d'appliquer cette grille de lecture à ce phénomène très particulier qu'est la franc-maçonnerie. Donc je me situe vraiment dans le sillage de cet éclairage qui a été donné d'une pratique sociale inventée, parce que ça facilite un petit peu le propos que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Ce que je voudrais d'abord faire, premier point, c'est évoquer la formulation même du sujet peut paraître à la fois paradoxale et même provocatrice pour certains esprits. Ce que l'on pourrait appeler l'histoire de la notion moderne de tradition. La tradition a une histoire. Les deux termes paraissent antinomiques. On va essayer de montrer qu'ils ne le sont pas. La notion d'histoire, la notion de tradition a une histoire. Et c'est une notion moderne. Alors voilà une deuxième antinomie, en particulier dans une perspective guénonienne. Vous ne m'empêcherez pas tout à l'heure de faire une petite proclamation anti-guénonienne, car malheureusement je suis un baby guénon qui en est sorti, qui est sorti de cette prison intellectuelle qui est le guénonisme, qui est à la fois extrêmement brillant, extrêmement fascinant, extrêmement érudit, et qui est un véritable poison intellectuel puisque ça aboutit à une stérilisation de la pensée, et notamment sur la question de la tradition. Mais ça c'est en quelque sorte pour le dessert. Alors, quand, comment et pourquoi la notion de tradition a-t-elle émergé dans le discours occidental? Par définition, je me place uniquement dans la perspective culturelle et historique qui nous sollicite prioritairement, ici, naturellement, c'est-à-dire l'Occident, et plus spécifiquement l'Occident chrétien, c'est-à-dire l'Occident depuis le début, depuis la fin de l'Antiquité. Vous savez qu'on discute beaucoup, depuis Henri René Maroux, on discute beaucoup pour savoir quand s'est terminée l'Antiquité, et au cours des 40 à 50 dernières années, a émergé le concept de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. C'est-à-dire, classiquement, on disait, quand on aimait l'histoire à la manière de Grévis, ou à la manière de Michelet, ou à la manière d'Isaac et Mallet, on aimait les dates qui sont des bornes claires, et on disait, ben voilà, l'Antiquité, ça se termine en 456, quand les Goths viennent déposer le dernier empereur romain d'Occident, et puis là, on passe dans le Moyen-Âge. Bon. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a une zone floue qui part probablement du IIIe siècle, donc de la décadence de l'Empire, jusque probablement à la Renaissance carolingienne, et même un peu après, c'est-à-dire au IXe siècle. Il y a là une période de 4-5 siècles où on ne sait plus très bien si on est dans l'Antiquité tardive, à la fois en termes de structure et en termes de référence culturelle, de structure politique et de référence culturelle, ou si on est déjà dans le Haut Moyen-Âge. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que la notion de tradition au sens où nous allons essayer de la saisir, est une notion qui n'émerge dans le discours occidental que très tardivement, c'est-à-dire à la Renaissance. Parce que précédemment, quel est pratiquement le seul emploi du mot « tradition » dans l'Occident médiéval ou de l'Antiquité tardive? Eh bien, c'est simplement dans le domaine de l'Église catholique, puisque cette époque-là, il n'y a qu'une seule Église, où on distingue, après évidemment, l'accaparement de la tradition chrétienne, qui est au fond une religion marginale, pour devenir une religion d'État sous Constantin, ce qui va faire le destin du christianisme en Occident, sinon ça serait resté une religion très marginale. Eh bien, à partir de ce moment-là, la construction théologique se fait à partir de deux choses, qui sont d'une part la référence aux Écritures, et on attendra le milieu du Ve siècle pour se mettre d'accord sur le canon des Écritures, c'est-à-dire pour fixer la liste des livres considérés comme inspirés, considérés comme des Écritures saintes, et il y a des tas d'ouvrages qui n'ont pas cessé de rentrer et de sortir du canon. Et puis le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle, à partir du 7e ou du 8e siècle, c'est ce qu'on appelle la tradition, avec un grand T. C'est-à-dire que comme on s'aperçoit que l'ensemble de cette littérature sacrée est évidemment extrêmement diverse, touffue et contradictoire, puisqu'on va trouver dans tout le Nouveau Testament et dans toute la littérature patristique de quoi définir une bonne quinzaine de religions différentes, et sur des points qui sont absolument fondamentaux, il faut une interprétation. Il y a ce qu'on va appeler un conflit des interprétations, et il faut définir une interprétation. Et la grande force politique et morale de l'Église catholique, c'est de dire il y a deux manières de définir la foi, c'est les Écritures et la tradition, c'est-à-dire l'interprétation correcte. Il apparaît un nouvel état d'esprit. On ne va pas revenir sur ce que signifie la Renaissance, on ne va pas revenir sur le fait que ça commence au XVIe siècle pour nous Français, mais que ça commence au XVe siècle en Italie, dans ce qu'on appelle en italien le Quattrocento, et vous savez que le Quattrocento, ce n'est pas le XIVe, mais c'est le XVe, puisque ça veut dire les années 1400, et que l'un des éléments fondamentaux, bien entendu, c'est une révolution dans tous les ordres de la pensée, dans le domaine des sciences, fondamentalement, et même de toutes les sciences. Et d'ailleurs, moi qui me suis intéressé à l'histoire de la médecine, évidemment, ça ne vous étonnera pas, je pointe comme un hasard qui est en même temps plein de significations, le fait qu'au milieu du XVe siècle, en 1453, entre guillemets par hasard, la même année, on publie deux ouvrages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est le traité d'anatomie de Vésale, qui est le plus grand anatomiste du XVIe siècle, et qui refonde littéralement l'anatomie en montrant que Galien, sur qui reposait toute la connaissance anatomique depuis l'Antiquité, s'est trompé sur quasiment pratiquement tous les sujets. Donc c'est un bouleversement total du savoir anatomique. Mais la même année, on publie, alors ça c'est publié à Venise, mais on publie en Allemagne, de la révolution des orbes célestes de Copernic, qui effectue le même ordre de renversement, puisque ça n'est pas autre chose que nous dire, on a toujours cru que la Terre était au milieu du système, et bien non, en fait, c'est le Soleil qui est au milieu du système. Donc ça, c'est ce bouleversement des sciences, mais le deuxième bouleversement qui intervient à la Renaissance, c'est évidemment aussi la réforme. Et la réforme, elle consiste en quoi? Elle consiste en retour à l'écriture. C'est-à-dire que le pilier fondamental de la réforme, que ce soit Luther, Calvin ou les autres réformateurs, consiste à dire, nous rejetons la tradition, au sens précédemment référé, c'est-à-dire l'interprétation normative imposée par l'Église, l'orthodoxie, nous retournons à la source que sont les Écritures, et nous les interprétons de nouveau, entièrement librement. Et ça justifie évidemment ce très joli mot, je dois dire que je suis protestant, donc j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, mais ça justifie beaucoup le joli mot de Boileau qui dit « Tout protestant est pape, une Bible à la main ». Et c'est très exactement ce que veut dire le mot d'ordre des réformateurs. Donc vous voyez qu'il se produit au XVIe siècle quelque chose de très important, on rejette une grande partie du pseudo-savoir scientifique antique, mais on rejette aussi une bonne partie de la tradition, et c'était le seul sens qu'on accordait à ce mot, c'est-à-dire une façon de voir la place de l'homme dans le monde à travers une expression religieuse. C'est alors qu'apparaît la notion moderne de tradition. En effet, on fait une découverte absolument fondamentale au milieu du XVe siècle. Du fait de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, un très grand nombre d'érudits grecs chrétiens sont obligés de fuir Constantinople, l'Asie mineure, qui va devenir musulmane, et ils arrivent en Europe. Et ils arrivent en Europe avec évidemment un très grand nombre de manuscrits grecs qui n'étaient pas parvenus en Europe ou qui avaient été perdus. Et c'est ainsi qu'en 1463, Marcile Ficin, qui est un des principaux hellénistes nécessairement distingués de cette époque sous évidemment le règne glorieux des Médicis, brillant à Florence, reçoit et traduit un ensemble de textes grecs. Il y a deux types de textes qu'il reçoit. Il reçoit d'abord une grande partie des œuvres complètes de Platon, qu'on n'avait pas oublié, mais qu'on ne possédait que par des traductions latines. Et puis surtout, il reçoit un ensemble de textes totalement inconnus, totalement oubliés, qu'on appelle le Corpus Hermeticum, ou les Hermetica. C'est un ensemble de textes qui se réfèrent à des spéculations théosophiques, religieuses, magiques, astrologiques, alchimiques, et qui prennent racine dans la région d'Alexandrie, donc dans l'Égypte hellénistique, et qui se rapportent à un personnage qui apparaît de place en place dans cette littérature extrêmement diverse, qui est Hermès Trismégiste, Hermès trois fois grand. Et avec la traduction du Corpus Hermeticum, on a le sentiment que brutalement, un savoir antérieur, très antérieur à la révélation chrétienne, est de nouveau mis à la disposition. Puisque on pense à cette époque qu'Hermès Trismégiste, d'abord, est un homme qui a vraiment vécu, et qu'il est contemporain de Moïse. Pour certains même, c'est plus ou moins Moïse, si ce n'est lui, c'est donc son frère. Cette traduction du Corpus Hermeticum va avoir un succès prodigieux, et on va de nouveau s'intéresser au savoir venu de très loin, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus qu'une tradition au sens précédent du terme. On va parler, il y a deux expressions qui vont commencer à être popularisées à ce moment-là, on va parler de philosophia perennis, le terme qu'on réfère et qu'on attribue souvent à Leibniz, qui en effet l'a utilisé et l'a popularisé, en réalité apparaît bien avant Leibniz, et il est utilisé dès la fin du XVe siècle par un bibliothécaire du Vatican qui s'appelle Stöcko, et qui, faisant référence à la pensée développée et au savoir exposé dans le Corpus Hermeticum, parle de philosophia perennis, c'est-à-dire de la philosophie éternelle. Mais un deuxième terme va rapidement apparaître, qui est présenté comme un équivalent de philosophia perennis, et c'est très intéressant, c'est Prisca Theologia, c'est-à-dire l'ancienne, la très ancienne théologie. En d'autres termes, après avoir rejeté la tradition de l'Église catholique, on découvre une philosophie éternelle et on dit c'est elle la plus ancienne théologie. Alors, inutile de préciser que, bien entendu, au XVe, au XVIe et encore au XVIIe siècle, toute l'étude et l'approfondissement du Corpus Hermeticum va se trouver mêlée à cause du milieu dans lequel ça se produit, à d'autres sources. La première, c'est la Kabbale chrétienne, qui est due donc à la découverte de la Kabbale, et vous savez que Kabbalah, ça veut dire transmission, tradition, réception, d'origine juive par des juifs convertis au XVe et au XVIe siècle. Et donc on va essayer d'établir un lien entre cette Kabbale chrétienne et le Corpus Hermeticum. Et puis bien entendu, d'une manière générale, toutes les spéculations relatives à ce qu'on va appeler la Naturphilosophie, la philosophie de la nature en Allemagne, autour du personnage de Paracelse. Évidemment, c'est un sujet immense qu'on ne peut pas développer. Je veux simplement mentionner que là, il se produit une sorte de tissage entre plusieurs courants de pensée. La pensée hermétique du Corpus Hermeticum redécouvert est considérée comme la tradition la plus ancienne du savoir de l'humanité. La Kabbale chrétienne, qui permet de conjuguer à la fois le savoir de la philosophie grecque, à la fois la tradition d'Égypte et à la fois la tradition de l'Ancien Testament, et puis la philosophie de la nature d'un Paracelse et d'un certain nombre d'auteurs paracelsiens, qui en quelque sorte, autour de la notion de magie naturelle, que nous appellerions, nous, la connaissance subtile de la nature, définit un nouvel ordre de pensée. Et c'est à partir de cette époque-là que va s'enraciner dans la conscience occidentale l'idée qu'il existe deux ordres de savoir. le savoir qui va être développé au XVIIe siècle au cours de ce qu'on appelle la révolution scientifique par les ancêtres de la science moderne, l'astronome, la physique de Newton, la chimie de Lavoisier et la biologie de Bichat et des autres ou de Claude Bernard au XIXe siècle, et un deuxième ordre de pensée qui est la pensée issue de cette tradition qui est en quelque sorte intemporelle mais qu'on pense venue du fond des âges. En 1614, il y a un auteur qui est un philologue protestant genevois, un érudit protestant, il faut toujours se méfier des érudits protestants, Isaac Casaubon, qui démontre par une magnifique étude philologique qu'en aucune manière le corpus hermeticum ne peut être contemporain de Moïse, c'est-à-dire 13 ou 14 siècles avant notre ère, mais qu'au plus, il est contemporain des premiers temps du christianisme, et Casaubon a raison, puisqu'on sait aujourd'hui que la plupart de ces textes ont été rédigés entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Mais curieusement, ce rajeunissement considérable d'un corpus traditionnel qui aurait dû porter atteinte à sa crédibilité ne va strictement rien changer. Ça montre bien que la découverte du corpus hermeticum n'était en quelque sorte qu'un prétexte, parce qu'en réalité, on avait besoin, l'Occident avait besoin de forger cette dualité entre une pensée issue de la philosophie expérimentale et qu'on appellera la science expérimentale au XVIIIe siècle et qui va fonder pour l'essentiel le siècle des Lumières et la conscience occidentale moderne, mais il lui fallait préserver un corpus d'idées, de doctrines, un corpus philosophique et d'ailleurs plus ou moins religieux qui relie en quelque sorte cette civilisation occidentale faite de ruptures à un savoir référé à la plus grande antiquité. Et on retrouve là ce besoin dans la tradition inventée, comme pratique sociale inventée, on trouve bien le besoin systématique de constituer des lieux de la pensée où l'on peut lutter contre l'idée d'une rupture, contre l'idée d'un isolement en quelque sorte par rapport au passé. Quelques mots pour évoquer les deux points suivants, qui seront beaucoup plus courts, que je voulais évoquer. Le premier, c'est que au XIXe siècle, cette notion de tradition va subir dans la pensée européenne un certain nombre de modifications problématiques. En particulier, la notion de tradition va de plus en plus s'opposer à celle de progrès des sciences, progrès des connaissances, progrès de l'esprit humain. Cette vision, qui est une vision liée au développement de ce que l'on pourrait appeler la religion scientiste du XIXe siècle, n'était absolument pas partagée au XVIe. Le XVIe siècle et le début du XVIIe sont une période absolument extraordinaire de l'histoire intellectuelle de l'Occident, où on pense que la réflexion philosophique, la conviction religieuse et la découverte de la nature sont des préoccupations parfaitement conciliables. Et d'ailleurs, on sait très bien, c'est valable encore, et jusqu'à Newton, vous savez très bien que Newton est un personnage qui, dans sa vie et ses préoccupations, exprime toute cette dualité. Le jour, si j'ose dire, c'est le fondateur de la science moderne, qui montre que, contrairement à ce qu'on affirmait dans la physique précédente, qui reposait sur le paradigme aristotélicien d'un univers structuré par des forces subtiles, obscures, incompréhensibles, avec des explications du style « si une balle tombe par terre, ben c'est parce que son lieu naturel est en bas », ce qui est une explication verbale, Newton dit non, pas du tout, c'est parce qu'il existe une force universelle qui s'appelle la gravité, qu'on peut mettre en équation et qui varie avec le carré, qui varie en sens inverse avec le carré de la distance. Voilà. D'une part, Newton, c'est ça, mais de l'autre, d'autre côté, et cette fameuse histoire de la découverte de la malle de Newton il y a quelques décennies, la nuit, Newton est fondateur de religion, théologien et alchimiste. Et il a passé probablement aujourd'hui, ce que ses biographes les plus récents démontrent, davantage de temps à s'occuper d'alchimie qu'à s'occuper de physique et de mécanique céleste. Donc voilà, cette transformation du statut de la tradition va faire que, globalement, le mot de tradition va être récupéré avec une signification gauchie, mais en l'occurrence droitisée, par des gens, par exemple, comme Joseph de Maistre ou Bonald, qui vont l'appliquer dans le domaine politique et qui vont faire de la tradition une sorte de fondement même de la pensée réactionnaire. Et puis, à la fin du XIXe siècle, le mot tradition va être récupéré par un autre milieu, qui est le milieu occultiste, sur lequel il faudrait d'ailleurs porter un regard entièrement nouveau, l'occultisme papusien, l'occultisme fin de siècle, quelque chose de haut en couleur, de curieux, de contradictoire, mais qui exprime une très grande difficulté de la pensée européenne, coincée entre, d'une part, un scientisme triomphant, et de l'autre côté, et notamment je parle pour la France, à la fin du XIXe siècle, une Église catholique qui n'en revenait plus d'exister encore après une demi-douzaine de révolutions, et qui s'était en quelque sorte rétractée sur des positions intellectuelles parfaitement intolérantes, et qui refusait globalement le monde moderne. Si vous n'étiez ni d'un côté ni de l'autre, quelle était la voie que vous pouviez emprunter? Moi, ma thèse, celle que j'essaie d'illustrer et de défendre depuis quelques années, c'est que les occultistes de la fin du XIXe siècle, dont beaucoup étaient maçons, ont essayé justement, maladroitement, avec plein de confusion évidemment, de découvrir une troisième voie. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre maçonnique, le mot même de tradition est un mot qui justement ressort de toutes ces épreuves et de toutes ces vicissitudes de l'histoire et de ces mutations de sens que le mot tradition a subi au cours du XIXe siècle. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, dans la maçonnerie en général, on oppose les francs-maçons traditionnalistes qui veulent que rien ne bouge et qu'on revienne à ce qu'on faisait le siècle avant, y compris dans de nombreux cas en proposant des usages et des rituels qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait il y a deux siècles. Et d'un autre côté, les francs-maçons libéraux, non dogmatiques, ouverts à tout ça, et qui disent il faut dépoussiérer, et la maçonnerie, elle doit respirer, elle doit être en l'air. Et pourquoi est-ce qu'on est là encore dans cette opposition, qui est une opposition caricaturale, historiquement et philosophiquement fausse? Eh bien, il y a un grand coupable, et je me terminerai là-dessus, parce que ça pourra ouvrir à une discussion, qui est évidemment René Guénon. René Guénon est le dernier en date qui ait formulé une théorie de la tradition, sur laquelle il fait tout reposer, y compris sa théorie de l'initiation, y compris sa vision de la franc-maçonnerie. Or, la théorie guénonienne de la tradition est une théorie très particulière, est une théorie très contestable, est une théorie qui est très liée à certaines interprétations philosophiques et religieuses qui lui sont propres, et en particulier au fait, ne l'oublions pas, que Guénon, à partir de 1930, a quitté définitivement l'Europe pour aller s'établir au Caire, où il a vécu comme un musulman au contact direct d'un petit groupuscule qui venait d'apparaître et dont il a adopté toute la philosophie qui s'appelait les frères musulmans. Évidemment, à cette époque-là, ça représentait un groupuscule sans importance. Mais quand on relit l'œuvre guénonienne et en particulier sa vision de la tradition à la lumière de cette grille, on découvre beaucoup de choses. Je crois qu'il faut simplement... Je terminerai pour ce propos liminaire, c'est peut-être un peu une facilité, mais c'est un mot que j'aime tellement que je ne manque jamais une occasion de le citer, parce que l'analyse historique me paraît montrer que c'est une façon élégante de résumer un vrai parcours historique de la notion de tradition. C'est un mot de Jaurès, que vous connaissez sans doute, et qui disait « La tradition, ça n'est pas conserver des cendres, ça n'est pas conserver des cendres, c'est entretenir la braise. »
Voilà. Merci Roger. Donc ça va arriver dans 5 minutes, mais on peut déjà peut-être entamer la discussion.
Vas-y. Quelle place fais-tu à Julius Evola dans l'instauration d'une certaine idée de la tradition?
Oui, alors évidemment, Evola pose d'autres problèmes que ceux que pose Guénon. C'est-à-dire que Evola est un peu le Guénon italien. Il a vécu beaucoup plus longtemps que René Guénon, puisque Evola est mort au début des années 80, alors que René Guénon est mort en 1951. Et l'œuvre d'Evola est beaucoup plus diverse que celle de Guénon, en ce sens qu'il s'est intéressé à des questions politiques sur lesquelles Guénon est resté toujours extrêmement prudent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'opinion, car quand on lit les différentes œuvres de Guénon où il est question au passage de considérations politiques, on voit très bien qu'il condamne la démocratie, le monde moderne, le suffrage universel, etc., etc. Bon. Et que les seuls articles qu'il ait écrits en dehors des revues spécialisées de philosophie ou d'études religieuses, ce sont des articles qu'il a écrits dans l'Action française. Donc, évidemment, Guénon dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique, mais par exemple, pendant toute la guerre, il reste cantonné en Égypte. Et en 1945, quand la fin du conflit survient, il écrit à son éditeur « Bon, enfin, on va pouvoir reprendre les contacts et écrire. C'est-à-dire, maintenant que cette connerie est terminée, on va pouvoir travailler de nouveau. C'est-à-dire que, comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il ne s'était rien passé. Evola, lui, a une... partage un très grand nombre des conceptions de Guénon. Il dit d'ailleurs très clairement que il était beaucoup plus jeune que Guénon. C'est en lisant Guénon qu'il a découvert un certain nombre d'aspects de la pensée qui l'ont séduit et sur lesquels il s'est mis à travailler. Mais Julius Evola a été beaucoup plus lié, en particulier en Italie, puisque bien sûr il a vécu toute sa vie en Italie, à l'aventure fasciste. Et d'ailleurs, j'ai ici une petite anecdote personnelle. Il y a de cela quelques années, j'avais fait la connaissance, en Corse, d'un aristocrate italien, mi-corse, mi-italien, qui s'appelait le baron Roselli Ceccone, un homme tout à fait curieux et intéressant, qui avait un âge très avancé, et qui m'avait expliqué, au cours d'une longue conversation, qu'avant la guerre, il avait fait partie, en Italie, du parti fasciste. Et il m'expliquait que dans le parti fasciste, qui, je vous le rappelle, dont les origines sont à l'extrême gauche, c'est-à-dire que Mussolini est un socialiste révolutionnaire. Et il disait que dans le parti fasciste, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux tendances qu'on appelait, d'une part, les sociaux, sociales, et ça veut dire que c'était ceux qui étaient issus de la mouvance socialiste révolutionnaire des années 20 en Italie. Ça, c'était une première tendance du parti fasciste. Et la deuxième tendance à laquelle lui se rattachait s'appelait, à l'intérieur du parti fasciste, les Evoliani, les Évoliens. Et c'était une tendance aristocratique, intellectuelle, qui, en fait, ne se préoccupait pas tellement, n'avait pas tellement le discours, on va dire, national-populiste, qui est celui des partis d'extrême droite de l'époque, mais qui parlait beaucoup plus de la renaissance de l'imperium romain, de l'aristocratie, de la noblesse de la race, tout en disant d'ailleurs qu'il refusait absolument le racisme allemand, pour cette raison, comme je revois encore cet homme me disant, vous comprenez, l'idéal type du grand blond, nous, en Italie, on avait un peu de mal. Voilà. Donc, Evola est une espèce de Guénon plus politisé, qui, évidemment, a du coup porté sur la franc-maçonnerie un regard beaucoup plus sévère et beaucoup plus distancié que Guénon. Guénon porte sur la franc-maçonnerie un regard qui est ambigu, parce que d'un côté, il dit, c'est la dernière structure avec le compagnonnage qui transmet l'initiation en Occident, premier élément. Deuxième élément, la maçonnerie spéculative est complètement dégénérée. Donc, il y a là un discours qui est un discours ambivalent. Alors que Evola dit il est possible qu'il y ait une dimension initiatique dans la franc-maçonnerie, mais il y a longtemps que c'est devenu une machine politique contre les forces qui veulent dissoudre la raison et le droit dans tous les pays d'Europe, et par conséquent, il faut écraser tout ça. Voilà, il y a une position très différente. Sur le fondement de la tradition, et l'idée de tradition comme étant une espèce, parce que c'est ça l'idée guénonienne, à l'origine des temps, c'est ce qu'il appelle une origine non humaine, il dit bien une origine non humaine, il y a eu transmission à un petit nombre de gens du savoir fondamental de l'humanité. Et ce savoir fondamental de l'humanité n'a jamais complètement disparu, mais est resté entre les mains d'une lignée qui l'a plus ou moins partagée, et à chaque fois que cette lignée l'a partagée, le savoir s'est perverti, le savoir s'est détruit en partie. Mais cette lignée subsiste, et elle subsistera jusqu'à la fin des temps. En gros, c'est ça l'idée. Alors évidemment, aujourd'hui, l'histoire comparée, tous les acquis de l'histoire comparée des religions, mais qui est une discipline qui ne s'est constituée comme un champ académique digne de ce nom, finalement, que depuis quelques décennies, et que Guénon a superbement ignoré au motif que les universitaires ne comprennent rien à rien. Et pourquoi est-ce que Guénon a cette position? Tout simplement parce qu'en 1928...
Oui. Tu fais passer ton...
Tout simplement parce qu'en 1928, Sylvain Lévy, à la Sorbonne, a refusé sa thèse comme n'étant pas un travail académique. Et donc, à partir de ce moment-là, Guénon a vomi tous les universitaires. Evola a tiré son opinion de René Guénon. René Guénon a émis un refus de la pensée universitaire. Il a ignoré les acquis de l'histoire comparée des religions. Et quand on prend tout cet acquis anglais, américain, allemand, français depuis 50 ou 60 ans, ou même 70 ans, on s'aperçoit que cet acquis rend totalement impossible à soutenir la théorie de Guénon concernant la tradition primordiale pour des raisons très simples. Il a totalement, mais alors totalement, ignoré, premièrement, tout le domaine africain, deuxièmement, tout le domaine américain précolombien, toute la tradition amérindienne, et troisièmement, toute la tradition d'Extrême-Orient, à quelques détails près, parce qu'il parle de l'Inde où il n'est jamais allé, et il parle un peu de la Chine, parce qu'effectivement, il a eu des amis, en particulier un certain Matt Gyoy, enfin, qui écrivait sous le pseudonyme de Matt Gyoy, qui avait été officier en Chine et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages en Chine, où il avait, à l'époque où la France avait un empire indo-chinois, et où il avait rapporté essentiellement une chose qu'on appelait dans le milieu des militaires le mal jaune, c'est-à-dire l'opium. Voilà. Pour lui, c'était essentiellement ça. Mais le fait qu'il ait ignoré principalement toute la tradition africaine, toute la tradition amérindienne, fait que la construction de ce qu'il appelle la tradition primordiale, au fond, c'est uniquement la tradition indo-arienne et judéo-chrétienne et gréco-romaine classique. Alors, ça n'est pas rien. Mais évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il y a une tradition primordiale dans laquelle trouverait place la tradition africaine et la tradition amérindienne qui ont des structures fondamentalement différentes et qui font exploser ce schéma.
Alors, pour essayer de répondre à ta question... La machine a inventé les traditions, et les traditions maçonniques en particulier. D'abord, toute l'ambiguïté du mot « invention », c'est vrai en français, mais c'est déjà vrai en latin, et c'est vrai dans la plupart des langues européennes, c'est que le mot a en fait un double sens. Et il faut être attentif à ce double sens. D'une part, ça veut dire « j'invente de toutes pièces, à partir de rien, un truc qui n'existait pas avant », j'invente une histoire, première possibilité. Et deuxième possibilité, et c'est d'ailleurs un terme qui appartient au langage des juristes, on retrouve quelque chose qui avait été perdu, oublié ou égaré. Par exemple, l'invention d'un trésor. Et cette double signification du mot invention, c'est-à-dire on part de rien, ou on retrouve ou prétend retrouver quelque chose, mais que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, l'important n'est pas là. L'important est que, quand on dit « je retrouve », même si ce n'est pas vrai, on justifie ce que l'on présente par le fait que on ne l'a pas créé de toute pièce, mais qu'il vient de plus loin. Et dans les pratiques sociales inventées, c'est très exactement ce schéma-là qui est retenu. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « on invente à partir de rien ». Mais on restitue, on révèle, on dévoile, on rappelle, on rétablit, on restaure. Ce sont les termes qu'on utilise. C'est ça le champ lexical de l'invention dans les pratiques sociales. La restauration, le rétablissement. Et en fait, c'est effectivement pour se situer dans une perspective de continuité historique, pour donner du sens à ce qu'on fait. Et du reste, on peut dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à l'émergence... notamment en Allemagne, de l'école historique moderne, le discours historique était essentiellement un discours de justification de l'ordre présent. Quand on lit toutes les grandes chroniques historiques du Moyen-Âge, on s'aperçoit que le souci de recouper les sources, de vérifier les informations, de présenter des faits cohérents, est un souci très secondaire. Ce qui importe avant tout, c'est que le récit historique ou d'une histoire supposée donne du sens à ce qu'on est en train de faire. Donc, l'idée que l'histoire a une réalité interne qui lui est propre et qu'il nous faut redécouvrir est une idée finalement récente. Alors, ça c'est dans le champ social. Maintenant, dans le champ maçonnique, la maçonnerie repose sur l'idée qu'elle transmet un savoir, des enseignements, des clés symboliques qui remontent à un lointain passé. Et comme, par exemple, depuis, pour ma part, 25 ans, je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup publié sur l'histoire des rituels, car les rituels ont une histoire, je suis toujours très amusé quand, à l'occasion d'une planche, d'une conférence quelconque, j'ai la question qui vient souvent. Mon frère, penses-tu, es-tu d'accord avec cette idée qu'il ne faut pas changer les rituels? Souvent ça vient. Alors à cela, je réponds, moi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut les changer, et avec ceux qu'il ne faut pas les changer, parce que je veux dire par là que je ne suis pas là pour discuter les bons et les mauvais points, j'ai mon opinion là-dessus. Mais en revanche, si on interroge l'historien, il vous répondra que depuis l'origine, on n'a pas arrêté un instant de les changer. Et quand par exemple, pour prendre un exemple que deux de nos frères vont bien comprendre, celui du régime écossais rectifié. Il se trouve qu'il y a 20 ans, j'ai publié un article, très long article, qui s'appelle « Chronologie des rituels du régime écossais rectifié pour les grades symboliques jusqu'en 1809 ». Bon, il est resté le travail de référence sur cette question-là. Quand quelqu'un me dit « Dans ma loge, on pratique le rituel du rite écossais rectifié », je réponds « Oui, très bien ». Donc, qu'est-ce que vous faites dans votre loge? On pratique le rituel du rite écossais rectifié. Alors, je répète ma question. Qu'est-ce que vous faites dans votre loge? Parce que, rien qu'entre 1775 et 1788, je connais déjà 6 versions différentes. Et parfois, très profondément différentes. Donc, quand vous dites, nous, on respecte le rituel du rite écossais rectifié, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne sais pas de quoi vous... Mais, je dis ça parce que je me suis beaucoup intéressé au rectifié, mais on pourrait parler du RE2A, c'est exactement la même chose. Si nos frères de la Grande Loge de France savaient ce qu'était le rituel du rite écossais ancien et accepté des loges symboliques du Suprême Conseil de France vers 1850, ils seraient extrêmement surpris. Extraordinairement surpris. C'était très profondément différent. Il y avait, par exemple... Je ne cite que ces deux exemples parce qu'ils sont quand même très, très forts. Il n'y avait absolument pas de protocole d'allumage et d'extinction des lumières. Le protocole d'allumage et d'extinction des lumières dans le RE2A a été introduit en 1952. Voilà. On peut citer 50 exemples comme ça. Donc, la modification des rituels, elle est inhérente à la vie de la maçonnerie. Mais... Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on écrit l'histoire d'un grade, c'est une chose qu'on peut faire, on prend toute une filière de rituels, manuscrits qu'on trouve à droite et à gauche, qu'on reconstitue, qu'on arrive parfois à dater, soit parce que le rituel est daté, c'est plutôt rare, soit parce que, à la fois par la critique interne et externe du document, on arrive à le dater d'une façon assez raisonnable. Et donc, on peut dire, ben voilà, on va prendre ce grade qui apparaît vers 1750, puis on a un rituel de 60, de 80, de 90, de 1810, de 1820. Et oui, on regarde.
Très bien.
Et on regarde ce qui s'est passé. Et on s'aperçoit de.
Merci.
Juste une question.
Jimmy.
Pour le dessert et café, on fait...
Le dessert, on va vous l'amener.
Oui.
Bon, en combien de temps je vais vous l'amener?
Je ne sais pas quelle heure il est, là.
Un quart d'heure?
Oui, un quart d'heure, vers deux moins le quart, oui.
Je crois que c'est
OK.
Super. La nourriture,
Quand je travaille là, on s'aperçoit que quand on prend le rituel d'un grade, alors bien sûr, c'est essentiellement pour les hauts grades, parce que pour les grades symboliques, on en fait vite le tour, mais en termes d'histoire, ils se stabilisent assez vite. Mais les hauts grades ont continué à évoluer très longtemps. On constate deux choses. Le rituel d'un grade donné, en 1750, c'est 4 pages. En 1780, il fait 8 pages. En 1820, il fait 20 pages. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a une inflation du texte.
Du texte ou des indications de mise en
place? Non, très peu d'indications de mise en place, très peu d'indications d'exécution. C'est d'ailleurs la grande difficulté des textes jusqu'à la fin du XIXe siècle, à de rares exceptions près. Mais ce sont les discours. Les discours et les commentaires. Alors les discours et les commentaires prennent une place considérable. Et puis, il y a de plus en plus de sophistication dans la pratique rituelle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, par exemple, on prend un grade quelconque. On ne va même pas donner de nom, on peut prendre un grade qui n'existe pas. On prend un candidat, puis on lui fait faire 5 fois le tour d'un espace central où il y a 4 chandeliers. Donc ça, c'est typique. Ça dure un quart d'heure. Un grade au XVIIIe siècle, ça dure un quart d'heure. Puis après, il s'assoit. Et on lui explique. Vous avez retracé, mon frère, dans la cérémonie que vous venez de vivre, Nemrod qui, au livre 4 de l'Exode, et on lui raconte toute l'histoire. Et il s'aperçoit qu'on lui a fait jouer le rôle d'un personnage biblique. Mais 20 ans plus tard, on a commencé à introduire dans le rituel du grade des éléments tirés de sa source. Et donc, le rituel vécu par le candidat devient de plus en plus compliqué. En fait, on n'a pas ajouté de contenu traditionnel nouveau, mais simplement, au lieu de le raconter, on l'a fait vivre. Ce qui était commentaire devient acte. Donc, par ce double phénomène, l'inflation des commentaires et le passage du texte à la pratique, les grades deviennent de plus en plus importants. Mais, au point que parfois, d'ailleurs, ils deviennent obèses. C'est-à-dire, on ne sait plus où on en est, quoi. Mais, par contre, quand on fait ce genre de choses, alors il y a une méthode qui consiste à faire des tableaux où on note les différents éléments, et puis, dans la deuxième version, on prend les mêmes éléments plus un certain nombre d'autres. Quand on fait ça, on voit apparaître un fil rouge. On voit apparaître tout au long d'un grade, généralement, il gagne des choses et il en perd très peu. Et donc, on arrive au fil rouge, ou à ce que moi j'aime appeler le nucléus, c'est-à-dire finalement l'élément fondamental qui a toujours existé. Et ça, c'est très curieux, parce qu'on ne sait jamais, ou très rarement, qui écrit les textes, qui les remanie, en vertu de quelle autorité, pour quelle raison on le fait. Tout ça est très peu documenté. Le seul exemple différent, c'est celui du rectifié, parce qu'il a été un petit milieu dirigé par un petit nombre de gens qui ont tout écrit dès l'origine. Donc on sait pourquoi on a fait ces révisions, à quelle époque, en vertu de quelle décision. Mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. On ne sait jamais qui a fait quoi, ou pratiquement pas. Simplement, on s'aperçoit que, curieusement, on ne fait pas n'importe quoi. Et qu'il y a, en quelque sorte, une espèce de cohérence fondamentale qui est préservée. Et je trouve que ce travail-là, au lieu de se battre comme des idiots pour savoir si cette version-là est meilleure que celle-ci ou que celle-là, il vaudrait mieux s'intéresser.
Bonjour à tous.
Salut.
Bon appétit.
Merci.
Exceptionnellement, on vous a mis là.
C'est bien.
Pratique, mais bon.
Bien.
Voilà.
Hein, c'est très bien. Et on devrait plutôt s'intéresser à quel est le nucléus, où est le fil rouge, parce que ça, c'est probablement le message fondamental. Voilà. Et c'est là que ça donne un sens au mot tradition. C'est-à-dire, si le mot tradition, dans ce cadre, a un sens, c'est d'essayer de retrouver le fondamental qui n'est finalement jamais affecté par les ajouts ou par les retranchements que l'on opère au fil du temps sur le texte.
Justement, par curiosité, dans ce que tu as pu repérer, justement, Nucleus, est-ce qu'il est concentré autour d'un, on va dire, du personnage qui subit, qui vit, et dont l'histoire est racontée, entre guillemets? Ou est-ce que ça peut être différent? Est-ce que ça peut être une situation qui peut être à un moment donné le fil rouge? Ou est-ce que ça s'articule souvent autour d'une personne?
Alors moi je me suis surtout, parce que c'est là où le champ est le plus vaste, c'était la facilité si je veux dire, je me suis surtout intéressé aux grades autres que les grades symboliques. Tous les hauts grades au sens général du terme. Et là, alors en sachant que pour un historien des rituels, les hauts grades, ça commence avec le grade de maître. C'est le premier des hauts grades. Ce n'est pas le dernier des grades symboliques, c'est le premier des hauts grades. Il en a tous les caractères. Et c'est même lui qui a fondé le modèle des hauts grades. À telle enseigne d'ailleurs que les premiers hauts grades se sont appelés maître écossais, maître irlandais, maître anglais, maître secret, maître parfait. Il y en a des listes entières, et qu'au XVIIIe siècle, le grade de maître, on l'appelait maître ordinaire. Ça prouve bien que c'était le premier des hauts grades. Et là, tous ces hauts grades, à de rares exceptions près, c'est en fait une déambulation en rêve, si j'ose dire, dans l'Ancien Testament, à peu de choses près. C'est-à-dire que ce sont des situations bibliques où les personnages sont saisis, captés. Alors bien sûr, on brode sur le texte biblique, on développe le thème biblique pour en faire autre chose. Mais au départ, c'est une histoire vécue par un personnage que le candidat est appelé à incarner, en quelque sorte. De sorte que c'est autour de ça, c'est autour de la personne, c'est autour du héros, et c'est autour des incidents fondamentaux du parcours qu'on lui fait suivre que se structure un grade et le sens de ce grade. Et on s'aperçoit qu'au départ, le commentaire, qui en effet est très restreint, et qu'au fil du temps, ça prouve que de génération en génération, on réfléchit de plus en plus sur ce grade et on apporte des commentaires nouveaux. Dans ce que d'ailleurs, très curieusement, dans la plupart des textes du XVIIIe siècle, on appelle le discours historique, qui n'est pas en fait un discours historique à aucun des sens que le mot historique peut avoir pour nous aujourd'hui. Mais ça veut simplement dire, c'est le discours sur cette histoire. Et sur cette histoire, on a des choses à dire. C'est le discours historique, qui est au fond une proposition d'interprétation, mais qui doit fondamentalement être saisie comme une proposition, et non pas comme un discours définitif, terminé, clos. Au contraire, c'est le démarrage, toute la subtilité de la maçonnerie consiste à dire, voilà, on vous propose cette interprétation, et puis sur cette lancée-là, vous pouvez aller plus loin.
L'ordre de la légende.
Pardon ?
De la légende au sens.
Oui, deux mots.
Moi, j'avais une question pour te laisser manger, bien sûr. Mais tu sembles dire que les rituels, alors je le dis de façon très triviale, hein, sont devenus obèses avec le temps,
oui.
Hein, pour le dire comme ça. Et moi, je me demandais du coup quelle incidence ça avait sur les rapports entre rituels et parcours initiatique. Parce que dans le parcours initiatique, il y a bien cette idée d'éprouver par la mise en scène, par la situation vécue, d'éprouver la situation et que le maçon puisse construire sa propre interprétation, et c'est ce qui fait aussi la notion de maçon libre dans une loge libre. Quoi. Et donc, à travers le temps, ça m'intéressait de voir un peu comment ces deux notions étaient liées, quoi, et comment elles avaient évolué.
Ce que je pense, c'est que plus le rituel d'un grade donné, dont le contenu fondamental est supposé ne pas être modifié, plus le rituel par lequel on le transmet est complexe, lourd, détaillé, plus le risque est grand qu'on propose en quelque sorte des interprétations fermées ou des interprétations qui enferment. C'est-à-dire que si on développe trop une interprétation dans un cadre rituel, le risque est élevé qu'on puisse en quelque sorte stériliser la réflexion. Donc ça, c'est peut-être le risque. Je prends un exemple qui pour moi est très caractéristique. C'est le quatrième grade du rite écossais rectifié, qui s'appelle Maître écossais de Saint-André. Alors, c'est probablement pour moi le plus beau de tous ceux qui existent. Le rituel écrit par Jean-Baptiste Villermoz, et là on sait qui l'a écrit, quand, comment, pourquoi il l'a écrit à ce moment-là et pas avant, parce qu'il explique tout, en 1809. C'est un rituel qui fait à peu près 90 pages, et dans ces 90 pages, il y a à peu près une heure à une heure et demie de discours, en plusieurs morceaux. À telle enseigne d'ailleurs que la plupart du temps, on ne pratique pas la totalité des discours, parce que il y a un discours final qui fait 30 pages. Alors moi, je pense d'ailleurs, j'ai toujours soupçonné que c'était la dernière épreuve du grade, c'est-à-dire que si le frère n'est pas mort à la fin, il est reçu définitivement. Et à la fois, alors, comme matériel d'étude, c'est-à-dire, on a reçu un grade comme ça, et on a la chance d'avoir un texte qui va, pendant 30 pages, essayer de proposer dans toutes les directions une interprétation, comme matériel d'étude, comme support d'approfondissement, oui. Mais comme une sorte de discours, parce qu'une chose est de lire un texte et une chose est de l'entendre dans le cadre d'une cérémonie rituelle. Il n'a plus du tout le même statut, plus du tout. Donc effectivement, le saisir comme un support de réflexion pour aller plus loin dans l'idée qu'on peut se faire du grade, c'est très bien. Par contre, l'entendre ex cathedra, en quelque sorte, comme une sorte de vérité qui tombe de l'Orient, là ça lui donne une ampleur et une force qui peut-être sont regrettables. Et il faut bien reconnaître que plus les rituels sont modernes, plus ils sont verbeux. Alors moi, je me suis amusé bien des fois, quand on me donne un manuscrit ou un texte, on me dit, tiens, à ton avis, ce n'est pas marqué dessus, il n'y a jamais la date, de quand date-t-il? Et alors, je m'amuse parce que je prends le manuscrit, je dis, 40 pages, c'est au moins 1770. Voilà. Mais 9 fois sur 10, c'est vrai. C'est un marqueur d'une simplicité un peu basique, mais c'est vrai. Avant 1760, tu ne vois pas de rituel qui fait 60 pages, c'est impossible. Ils font tous quelques feuillets, tout simplement. On s'est amusé à faire ce chronométrage, on a pris des rituels du XVIIIe siècle en prenant notre temps, mais en faisant tout ce qui était dans le... Avant 1750, n'importe quelle cérémonie dure moins d'un quart d'heure. On a beau faire ce qu'on veut, même si on l'est lentement, même si on y va lentement, ça ne va pas durer plus d'un quart d'heure. Le même, 50 ans plus tard, dure une heure et demie. Montre en main, c'est la même chose. Donc, il faut réfléchir sur ça. C'est ça l'histoire de la tradition. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a reçu le même grade dans la même source, et il y a même une filiation de loge ou d'individu entre les deux qu'on peut, dans la plupart des cas, reconstituer. Donc,
Il n'y a aucun doute. Est-ce qu'on a transmis la même chose dans les mêmes conditions? Oui et non. Voilà. C'est plutôt comme ça, à mon avis, qu'il est intéressant de réfléchir sur la notion de tradition. Parce qu'on a trop souvent l'idée que la tradition, c'est, pour reprendre la phrase de Jaurès, hein, c'est un petit tas de cendres que l'on repasse. Non, c'est une braise, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Et que la vie et le respect de la tradition sont des choses qui ne sont absolument pas incompatibles, à condition qu'on comprenne bien que c'est une vie qui se développe dans un fil, dans une perspective, dans une filière, dans une cohérence d'origine. Et que le jour où on rompt ou que l'on ignore cette cohérence d'origine, où on ne fait pas, où on ne se donne pas les moyens de vérifier qu'on est toujours dans cette cohérence d'origine, et c'est ça qui est difficile, alors à ce moment-là, on risque effectivement de couper le fil et de faire autre chose. Ce que c'est vu à différentes reprises.
Le fait de l'entendre et de le voir et de le vivre, parce qu'on n'était déjà pas rentré finalement dans la civilisation de l'audiovisuel, au moment où on faisait vivre et où on avait besoin d'entendre et de voir et de regarder, qu'on avait plus cette possibilité peut-être qu'avait ceux du 18e, eh bien de pouvoir faire reconstituer par l'imaginaire. Par l'imaginaire. Est-ce qu'on a perdu quelque chose de ce côté-là alors ?
Donc tu voulais du couscous, c'est tout ce qu'il a dit son
développement. Ça pose une autre question. Moi qui m'intéresse depuis longtemps, je crois que dans différents domaines de la pensée, on va dire la fin du XVIIIe siècle, je parle en Europe, la fin du XVIIIe siècle a été une vraie rupture épistémologique. Je veux dire que la manière d'envisager le monde, la sociabilité, la transmission, tout ça a substantiellement été changé quelque part entre le deuxième tiers du 18e et le premier tiers du 19e. Mais le changement a été un changement substantiel, de sorte que la manière dont sont rédigés les textes en 1770 ou 80, c'est souvent une manière très inspirée, très riche, très surprenante, très vivante, très créatrice. Et puis quand on reprend ces textes en 1830 ou 1840, ça devient consternant, mais consternant. Comme si une espèce de source s'était tarie. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent eu un effort au XXe siècle, hein, en maçonnerie, il y a souvent eu un effort pour revenir au rituel du XVIIIe siècle, pas nécessairement parce que ce sont les plus anciens, mais parce qu'ils se situent avant cette rupture épistémologique de la fin du XVIIIe, où là, il y a vraiment eu des oublis, des abandons, des cassures, à mon avis, sur lesquelles il n'a plus été possible après de revenir, parce qu'on ne savait même plus qu'il y en avait eu une. On n'avait même plus conscience que quelque chose avait été cassé.
Quand est-ce que tout cela devient un enjeu? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence à se... Alors, tu vas me dire depuis toujours, peut-être.
Oui, bien sûr.
Mais peut-être un peu plus... Sur une période un peu plus courte, disons, depuis le XVIIIe siècle, est-ce qu'il y a des moments un peu charnières où il y a des enjeux internes importants? Alors, je pense évidemment au moment où le RE2A est créé, par exemple. Mais est-ce qu'il y a des conditions historiques qui ont favorisé ça? Et qu'est-ce qu'il y a en toile de fond derrière ça?
Alors, ce qui est d'abord très surprenant, c'est que quand on prend les plus anciens textes maçonniques français, bornons-nous à la France. Enfin, c'est un domaine dans l'histoire maçonnique qui est immense. Ce qui est très frappant, c'est que les premières divulgations maçonniques françaises datent du début des années 1740. Il y en a une en 1737, mais ça commence essentiellement dans les années 1740. Dès cette époque-là, c'est-à-dire que la maçonnerie est balbutiante. En 1740, il y a une quinzaine de loges à Paris et il y en a une vingtaine dans le reste du pays. Ce qui veut dire que il y a peut-être 30 ou 35 loges dans toute la France et qu'au maximum, il y a 600 ou 700 francs-maçons en France. Bon, il y a quand même 25 millions de Français. Donc, c'est un milieu microscopique. Eh bien, on dit, dans ces textes-là, la maçonnerie est au fond du gouffre, elle est totalement dégénérée. C'est un message qui survient presque immédiatement. Et on s'aperçoit que, tout au long du XVIIIe et encore du XIXe, il y a un discours récurrent, c'est presque en quelque sorte un gimmick. La maçonnerie est foutue, il faut la régénérer. Ça, c'est vraiment une obsession permanente du discours maçonnique. Plus ou moins fondée, mais en tout cas, ça revient souvent. Ce que l'on peut dire, c'est que, pour essayer de répondre plus précisément à ta question, la question de savoir si les rituels que l'on pratique sont d'une, alors on va utiliser plein de termes, d'une authenticité, d'une légitimité, d'une profondeur, d'une vérité, telle que ce qu'on fait là, c'est sérieux par rapport à ceux qui font autre chose qui est moins sérieux, ça, exprimé de cette manière-là, c'est finalement une préoccupation maçonnique très récente. Très récente. Par exemple, quand on prend l'avant-guerre en France, prenons l'avant-guerre. La différence entre le Grand Orient de France et la Grande Loge de France, c'est l'épaisseur d'un papier à cigarette. C'est même plus qu'on ne pense. C'est-à-dire, et c'était notamment vrai dans le nord de la France, le Grand Orient était radical socialiste, c'est-à-dire centre-gauche, la Grande Loge de France était socialiste, c'est-à-dire gauche, à gauche toute. Et dans le nord, quand on était socialiste, on allait à la Grande Loge, et quand on était modéré, on allait au Grand Orient. Les rituels étaient à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'existait plus rien, il n'y avait plus de tableaux, il n'y avait plus de piliers, mais il n'y en avait pas non plus à la Grande Loge de France, il n'y avait même pas de Bible. Il a fallu qu'en 1953, la Grande Loge de France publie une déclaration de principe rendant obligatoire la présence de la Bible sur l'autel du Vénérable. Pourquoi a-t-il fallu faire ça en 1953? Mais c'est parce que depuis belle lurette, il n'y avait plus de Bible à la Grande Loge de France. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc en réalité, et là aussi c'est très drôle, c'est la reconstruction de l'histoire. La reconstruction de l'histoire. On s'imagine qu'on a été de temps immémorial ce qu'on n'était pas du tout à ce moment-là. La préoccupation et les vraies différences sont apparues dans les années 50. Dans les années 50, et notamment sous l'influence de René Guénon, parce qu'aujourd'hui, évidemment, d'abord dans la culture contemporaine en général, et puis il faut quand même bien le dire, comme la maçonnerie recrute dans la société, bah forcément elle recrute dans une société de plus en plus inculte. On ne lit plus certains auteurs, et on lit beaucoup moins René Guénon en France qu'on ne le lit encore aux États-Unis, en Angleterre. Mais sous l'influence de René Guénon, dont l'autorité intellectuelle, dans les années 50 et 60, a été fondamentale dans toute la maçonnerie en France. Par exemple, on publie, au début des années 60, un numéro spécial de la revue Planète, hein, qui a été toute une histoire, toute une époque, toute une tradition, la revue de Louis Powell, c'est Jack Bergier, avec les concerts de Ravi Shankar, et puis des herbes plus ou moins prohibées qui couraient un peu partout. Bon, dans cette revue qui fonde qui tente à populariser ce que Powell appelle le réalisme fantastique, c'est-à-dire derrière la réalité, il y a une autre réalité que vous ne voyez pas et qui est fantastique. Dans ce livre-là, dans cette revue-là, il y a un numéro spécial, donc au début des années 60, sur la franc-maçonnerie. Et on demande à l'un des grands francs-maçons de l'époque, qui est Jean Bellot, qui avait commencé sa carrière au Grand Orient de France, qui était rectifié et qui ensuite est passé à la Grande Loge nationale française, on demande à Jean Bellot ce qu'il pense de René Guénon. Et Jean Bellot utilise une formule qu'un très grand nombre de maçons français de toutes obédiences auraient signée à l'époque. Il dit « L'œuvre de René Guénon est indispensable à l'intelligence maçonnique du passé, du présent et de l'avenir. » C'est-à-dire, en dehors de René Guénon, vous ne comprendrez rien à la franc-maçonnerie. Or, que dit Guénon? Il dit « La maçonnerie, comme toute voie initiatique, n'a de sens que si elle procède d'une transmission absolument infaillible, sans aucune rupture ni discontinuité depuis l'origine des temps. » Ça veut donc dire que l'observance absolument, ce que, d'un point de vue historique, totalement insoutenable, évidemment, totalement insoutenable. Mais, c'est ce que dit Guénon. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la pratique absolue d'un rituel dont on ne bouge pas d'un iota, est une condition essentielle à la validité même de la transmission initiatique. Et à partir de ce moment-là, même il a d'ailleurs fait une chose absolument incroyable, heureusement il est mort en 1951, ça allait aboutir à la folie, il est reclus au Caire depuis 20 ans, il ne sait absolument plus ce que c'est que la maçonnerie, où il a passé 2 ans de sa vie, entre 1913 et 1915, c'est tout à la Grande Loge de France. C'est tout, il n'a aucune autre expérience maçonnique. Eh bien, il fait à distance créer une loge qui porte le nom d'un de ses livres, La Grande Triade, et par correspondance et par lettre, il dit « Ah, le vénérable, il n'est pas bien du tout, hein, faudrait que vous le changiez, puis votre premier surveillant, il ne fait pas son boulot, etc. » Bon. Et tous ces gens-là, qui sont des guénonodules totalement obsédés, font exactement ce que dit le maître du Caire à l'ombre des pyramides. Mais, là c'est un exemple extrême, mais disons que à partir des années 50, commence à s'enraciner dans l'esprit des maçons français que, en dehors de l'observance d'un certain nombre de maçons français, en dehors de l'observance absolument rigoureuse, infaillible, d'un rituel suivi à la lettre et qui est supposé ne pas avoir changé d'un iota depuis l'origine du monde, il n'y a plus de maçonnerie valide. Et là, il se crée une vraie rupture entre ceux qui trouvent que c'est la règle.
Non, on va
te
servir.
Tu ramènes
un café ?
Oui ? Café encore ?
Oui.
Ok, vous amenez ça. Donc je vous laisse ça là et j'amène le café.
Et à ce moment-là, il se crée une vraie rupture entre ceux qui pensent que c'est la règle et ceux qui pensent que c'est très sérieux. Mais du coup, ça devient un enjeu, alors qu'avant, ça n'était pas un enjeu. Il y avait des gens qui pensaient peut-être dans leur coin, mais ils n'en faisaient pas un principe de discrimination entre les bons et les mauvais.
C'est à ce moment-là que c'est érigé, j'allais dire, assez instrumentalisé, à des fins internes, à des batailles d'obédience, et qu'on joue au jeu, mon rituel est plus vieux que le tien.
Voilà, exactement.
À la matérielle interne aux obédiences.
Je te remercie.
Oui.
Moi, j'en veux pas. Moi, je me posais une question quand même par rapport à ce que tu disais. Imaginons que, effectivement, chaque loge, allez, même sans faire préférence à l'obédience, chaque loge décide d'aménager son rituel en fonction de ce qu'on a décidé ensemble. Finalement, on dit bah, là, on va mettre telle phrase. Qu'est-ce qui adviendrait de la maçonnerie si tout se déroulait comme ça?
Eh bien, tout dépend comment ce serait fait. Parce que, par exemple, moi, il m'est souvent arrivé de dire, ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, mais je le dis parce que je le pense vraiment, que j'ai peut-être simplement, au fil des années, acquis le droit de dire certaines choses qui dérangent. Je pense qu'une des structures qui ont fait le plus de mal à la maçonnerie depuis 30 ou 40 ans, dans différentes obédiences, c'est ce qu'on appelle, sous des noms divers, les commissions des rituels. Parce que les commissions des rituels sont 9 fois sur 10, je réserve la possibilité d'une exception heureuse, peuplées de gens qui n'y connaissent rien du tout. Et alors, voilà, j'ai vu 100 exemples. Tu ne sais pas d'où vient un rituel, tu ne sais pas d'où vient un usage rituel, tu ne sais pas à quelle filière de texte il se rattache et à quelle signification on l'a rattaché à l'origine. Quand on ne comprend pas, on dit que moi je suis quelqu'un d'intelligent, si je ne comprends pas, c'est que ça n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens, je l'enlève. Et là, il va se passer quelque chose de grave. C'est que, il me semble que la bonne attitude traditionnelle devant un rituel, c'est de dire, je ne sais pas pourquoi c'est là, je ne comprends pas, donc je vais laisser, parce qu'un jour on va trouver. Et c'est même un objet de recherche. Par contre, si tu dis, je ne comprends pas, et comme je suis intelligent, c'est que ça n'a pas de sens, eh bien tu as perdu définitivement toute chance de comprendre ce qui se passait là.
Là, t'es guénonien.
Et oui, c'est un des rares cas, mais je dirais que ce n'est pas du guénonisme, c'est simplement un problème élémentaire de méthode. Donc, le risque, c'est ça. C'est-à-dire que, on peut. Moi, je serais. D'abord, les loges le font toutes plus ou moins. Parce que, il faut quand même bien admettre que d'une loge à l'autre, il y a quand même parfois des modifications qui ne sont pas forcément de portée à la connaissance des autorités de l'obéissance. Et d'ailleurs, tant mieux. Mais tout dépend jusqu'où vont ces modifications et tout dépend en vertu de quoi elles sont introduites. Si elles sont introduites en fonction, je dirais, d'une analyse compétente d'un texte, d'un rituel qu'on rattache à une filière, etc., et qu'on explique et qu'on documente, à ce moment-là, pourquoi pas? À partir du moment où on le fait comme ça, parce qu'on trouve que c'est mieux ou que c'est plus joli, ou parce qu'on ne comprenait pas avant, et qu'on ne le dit pas, et qu'on n'en laisse pas de traces, et qu'on ne le justifie pas, on risque là, effectivement, d'arriver au bout d'un certain nombre d'années au fameux jeu du téléphone, hein, que font les enfants, on raconte une histoire qui raconte une histoire qui raconte une histoire, et quand ça arrive au bout, c'est comme les mots de semaine.
L'inverse
est vrai aussi. Le mot est revenu à peu près. J'ai vécu le rectifié qui est passé par la Suisse et à qui, du jour au lendemain, on veut recoller les machins écrits par Villermoz.
Évidemment.
D'avant, ils ne connaissent plus. Et ils ont le droit de ne pas s'y retrouver.
Et alors le plus drôle, par exemple, on peut prendre, ça tu me fais penser à une histoire, qui est drôle parce que c'est une histoire vécue. va rentrer dans un domaine un peu technique, mais c'est facile à comprendre. En 1809, Villermoz écrit le rituel du maître écossais de Saint-André, qui est un grade. Il se trouve que pour des raisons multiples, au cours du 19e siècle, en Suisse, où le rectifié est le seul endroit où il subsiste, au 19e siècle, on va couper le rituel en deux. Et on va faire deux grades, maître parfait de Saint-André et maître écossais de Saint-André. Bien. Lorsque, au début du XXe siècle, le rectifié qui avait disparu en France revient, il revient par la Suisse. Et donc, les premiers rectifiés français du XXe siècle récupèrent maître parfait de Saint-André et maître écossais de Saint-André, donc deux grades, deux parties différentes. Vient 1966, où, de façon séparée, deux érudits francs-maçons, René Guy et Jean Feuillet, découvrent dans les archives de Villermoz à Lyon le rituel originel, en une seule partie, et qui propose par conséquent le rétablissement du rituel d'origine. Tollé en disant, extraordinaire, il n'est pas question de revenir sur la tradition. La tradition, c'est que le grade est en deux parties, il ne faut pas changer. Donc, ça veut dire que voilà des frères qui, au nom de leur respect sincère pour la tradition, voulaient en fait garder une innovation qui avait été introduite 50 ans avant. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. Donc, s'ils avaient su, et après on leur a expliqué, donc le jour où on leur a expliqué, ils ont fini par comprendre, mais s'ils avaient su, ils n'auraient pas réagi de cette manière-là. Donc le risque, c'est ça, c'est que si on veut modifier des textes qu'on situe dans une filiation traditionnelle, mais qu'on ignore d'où ils viennent, quelles modifications ils ont subies, pourquoi, quand, comment, ben on risque de tout fantasmer et de faire beaucoup plus souvent le pire que le meilleur. En tout cas, c'est des faits.
Oui, mais si ça a déjà été fait, d'une certaine façon.
Parce qu'on ne peut pas simplement valider la qualité de la transmission, parce qu'après tout, le mot tradition pour un traducteur de métier que je suis, c'est pratiquement synonyme de ce que je fais. C'est-à-dire, je transmets d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas donner au sens à tradition simplement ce sens-là? Et si on donne ce sens-là uniquement de transmission, quel genre de transmission je valide? Est-ce que je valide la transmission du bouquin qu'on a retrouvé aux archives, ou est-ce que je valide la transmission humaine?
En tout cas, il y a un autre exemple. Dans les années 50, au Grand Orient de France, où le rituel était devenu extrêmement simple pour les Français, très simple, au moins qu'on puisse dire. Il y a eu un groupe de frères dirigé par René Guy, qui était mon maître, mon père spirituel, qui était conservateur des musées de France, qui était spécialisé d'ailleurs, qui dirigeait les ateliers de restauration du Louvre. C'est pas... Son métier, c'était de remettre les choses dans l'ordre, dans l'état ancien. A commencé un travail qui a abouti, en 1955, à la première version de ce qui s'est appelé le rite moderne français rétabli. Et ce rite s'est répandu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé plusieurs choses. La première, c'est que le groupe fondateur, qui travaillait avec une méthode très rigoureuse, n'a pas pu poursuivre ce travail, ni au Grand Orient, ni à Opéra, et ça a fini par donner la Loge Nationale Française, et on suit bien le groupe qui, lui, avec sa méthode, n'a pas varié, et à chaque étape, il y a des frères qui sont restés sur le bord du chemin, et qui ont gardé un rituel à un certain moment, à un certain niveau de son élaboration. Ce qui fait que sous ce nom de rite français moderne rétabli, il y en a 50 variétés qui, en réalité, sont très différentes, parce que les autres filières de frères ont modifié le texte. On modifiait le texte en n'ayant plus la même méthode, à telle enseigne qu'à un moment donné, nous avons décidé de ne plus l'appeler rite moderne français rétabli, parce qu'en fait, on n'avait jamais prétendu rétablir une chose telle que c'était à l'origine, puisqu'on n'a pas le texte d'origine, et on l'a appelé rite français traditionnel. C'est-à-dire, on ne garantit pas qu'on fait une restitution archéologique de quelque chose qui serait exactement dans l'état où il a été il y a deux siècles et demi, on essaie simplement de faire une proposition pour établir quelque chose qui serait dans l'esprit traditionnel de ce que cela aurait pu être au XVIIIe siècle. Tu vois ? Voilà une perspective assez différente qui montre, quand on essaie de faire ce genre de restitution, tout dépend de la méthode qu'on utilise. On peut prendre les meilleures ou les pires.
J'aimerais rebondir sur la question que tu as posée concernant finalement la traduction. Une traduction, c'est un changement de système. Et ce que tu nous as proposé, et c'est légitime, et c'est sans doute pour ça qu'on t'a sollicité, c'est une lecture historicisante de la tradition, notamment maçonnique. Mais en adoptant cette lecture, il me semble qu'on exclut de facto la possibilité, par exemple, de création d'un nouveau rite.
Bien sûr.
Néanmoins, il me semble exister une autre lecture d'un rite, qui ne serait pas du coup, là on sort de notre thématique centrale, qui est une lecture sémiologique. Un rite est un ensemble de signes, je suis très structuraliste dans la définition, un ensemble de signes cohérents, avec des relations, qui véhiculent des valeurs. Cette lecture-là n'exclut absolument pas la création d'un rite. Et donc on pourrait imaginer un début de transmission qui pourrait s'effectuer à partir de ce nouveau rite, sans forcément se réclamer d'une tradition. Et pourtant, il me semble qu'on se réclame toujours d'une tradition, d'une antériorité. Donc pourquoi ce hiatus ?
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Simplement, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on me demandait, c'est-à-dire que j'ai joué l'historien fanatique. Maintenant, pour ne prendre que l'exemple je suis historien de la maçonnerie, mais la plupart du temps, en loge, je suis franc-maçon. Ce n'est pas la même chose. Même si ma lecture historicisante est souvent très forte pour moi, mais elle n'est pas exclusive. Et donc, il y a ce qu'on appelle dans la LNF une double démarche. Une démarche historicisante qui est éclairante et une démarche proprement initiatique qui vise à aller au cœur du sens. Simplement, dans les deux cas, qu'on adopte une démarche historique dont il ne faut pas faire un absolu, parce que l'histoire n'est pas normative, l'histoire ne doit pas être normative, bien entendu, ou qu'on adopte une approche, on va dire, plus anthropologique. Et la maçonnerie est quand même une praxis. Donc, cette approche anthropologique doit exister. Dans les deux cas, ce que je veux simplement dire, c'est que on doit s'astreindre à une certaine rigueur méthodologique. L'évolution et la transformation des rituels ne doit pas se faire en fonction de l'air du temps et le caprice du moment. Et j'ai contribué à essayer de définir ce que l'on appelle parfois d'un mot qui n'est pas défini, la maçonnologie, en disant que la maçonnologie, qui est une discipline qui a commencé à émerger dans les années 70, c'est une tentative d'élucidation du phénomène maçonnique qui part d'une base historique, mais qui l'élargit à une vision culturelle, anthropologique, et dont l'objet est de caractériser les invariants de la méthode maçonnique. Et dans chaque rituel, on doit essayer de trouver ces invariants anthropologiques. Mais dans tous les cas, ça suppose de la culture maçonnique et de la rigueur méthodologique. Ce que l'on peut regretter, c'est que souvent, ceux ou celles, mais je n'en fais pas un absolu, il a pu se produire que les choses se passent bien, ceux ou celles qui sont chargés ou qui prennent la responsabilité d'introduire ces modifications ne possèdent pas forcément la culture et ne respectent pas nécessairement la rigueur méthodologique nécessaire. Tout simplement parce qu'on pense que, de même que la vie initiatique se vit dans une espèce, j'allais dire comme ça, de passion spirituelle et intellectuelle, on peut modifier le substrat de la même manière. Non, la modification du substrat, elle doit se faire avec une autre approche, qui est une approche au contraire distanciée, une approche qui est encadrée par une méthode. On n'est plus là en train de rêver, c'est le rituel qui va ouvrir au rêve. Mais la mise au point du texte, ce n'est pas du rêve. En tout cas, ça n'est pas que ça.
Mais moi, dans ce que tu dis, enfin, moi j'avais essayé de rapprocher, tu sais, de la notion de culture. Il me semble que le débat se pose dans les mêmes termes, à savoir est-ce que la culture se transmet de façon statique, sans qu'elle soit un rapport social, ou effectivement, on pense à Lévi-Strauss notamment, qui va aller rechercher les invariants, y compris par la prohibition de l'inceste, en termes d'organisateur des sociétés, et de pouvoir faire émerger le sens à partir effectivement d'une méthode, et en l'occurrence là c'est la méthode structuraliste. Quoi. Et il me semblait, je ne sais pas si c'était, j'en profite du coup, si c'était juste, mais pouvoir faire ces liens justement entre la tradition et la culture et les deux façons de l'aborder. Hein, quoi, hein, les deux tueurs et les deux de la presse.
Moi je crois que l'un des problèmes de la maçonnerie aujourd'hui, dans un pays comme la France, où elle est plutôt en bon état, par rapport à ce que à la situation dans laquelle elle se trouve aux États-Unis ou en Angleterre. Le problème,
c'est que l'amoindrissement du bagage culturel moyen des francs-maçons, qui est dû à l'amoindrissement du bagage culturel moyen des nouveaux arrivants, est un vrai problème. Je sais très bien qu'il ne faut pas considérer la maçonnerie comme une société savante ou un club d'intellectuels. Mais en revanche, le risque que nous considérions la maçonnerie comme ça est aujourd'hui très faible. Par contre, il y a un autre risque qui est avéré, c'est, et que nous avons tous rencontré un jour ou l'autre, c'est l'anti-intellectualisme rampant dans les loges. Dès qu'on fait une référence culturelle, érudite, ou à la culture générale, dès qu'on... Alors, ah oui, mais attention, on n'est pas à l'école, on n'est pas à l'université. Oui, bordel, mais on n'est quand même pas non plus à la maternelle. Donc, la maçonnerie est un phénomène intégré dans la culture. Bien entendu que ce n'est pas une école du soir, ni une académie, ni une société savante. Entièrement d'accord. Mais si on ne sait rien sur rien, en rien, je pense qu'on ne peut pas faire de maçonnerie. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce que où, quand et comment la maçonnerie peut-elle pallier les manques et les lacunes de ceux ou celles qui, animés d'un désir sincère, la rejoignent et finalement y rentrent. Parce qu'on ne va quand même pas se raconter des histoires. Quand on veut rentrer dans la maçonnerie, on finit par y arriver. C'est jamais très difficile. Bon. Donc ils vont rentrer. Un jour ou l'autre, ils vont rentrer. Et après, ça, c'est, pour moi, c'est dans la... Si tu veux, par exemple, aujourd'hui, où sont les grands intellectuels qui peuplaient la maçonnerie au XIXe siècle? Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et il y a une raison, il y a sûrement une raison à ça. Pour eux, la maçonnerie, c'est un truc ringard et intellectuellement dévoyé.
Parce que alors,
et voilà. Alors donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire de la maçonnerie une société savante ou un cercle académique, mais je pense que sans un certain niveau de travail intellectuel, c'est bien gentil de dire « oui, mais il y a le cœur, il y a les sentiments, il y a la fraternité », mais on est entièrement d'accord, on est entièrement d'accord. Mais avec ça, on fait aussi les Boy Scouts. Donc, est-ce que la maçonnerie, c'est des Boy Scouts attardés, ou est-ce que la maçonnerie, c'est autre chose?
Solution, ta préconisation, ou ta pratique?
Bah, tu sais, après, chacun, comment dirais-je, chacun fait sauf qui peut. Donc, moi, je me suis réfugié dans une obédience d'intellectuel. C'est une solution de facilité. Voilà. Où il y a 30 loges, dont 6 loges d'études et de recherche. Voilà. Où tout le monde est collaborateur d'une revue qui est considérée comme la meilleure en Europe. Bon. Mais je reconnais que c'est une expérience microscopique qui peut être exemplaire, mais qui ne peut pas être généralisée. Avec ça, tu fais une fédération de loges qui comprend 300, 400 membres, mais qui n'en comprendra jamais 20 000. C'est impossible. Donc, c'est bien que ça existe, et que, comme nous recevons beaucoup de visiteurs, les gens sont toujours extrêmement intéressés, d'autant plus qu'on n'est pas là pour donner des leçons, on ne regarde pas les gens de haut, que la question n'est pas là. Donc, mais ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est une solution de facilité. La solution de fond, c'est... C'est pas moi. Il y a des loges, par exemple, encore, au Grand Orient, qui s'appellent l'éducation mutuelle, l'éducation universelle. Il y a encore des loges qui ont ces noms distinctifs, hein, qui sont héritées de la fin du 19e. Moi, je veux bien, mais il faudrait que ces grandes obédiences, qui ont des dizaines de milliers de membres, qui ont des locaux, qui ont des moyens, qui ont vraiment toutes sortes d'outils à leur disposition, mais mettre en place de vrais instruments de formation, qu'on admette l'idée que franc-maçon, ça ne s'improvise pas, qu'il y a une formation du maçon. Et comme aujourd'hui, peut-être que nous devons nous critiquer nous-mêmes, hein, l'université ne nous fournit apparemment plus... Moi, j'ai commencé mes études de médecine il y a plus de 40 ans, un peu moins de 40 ans quand même. Et j'enseigne depuis 30 ans en fac de médecine. Aujourd'hui, on ne forme plus les humanistes qu'était le médecin moyen il y a 40 ans. On forme des techniciens supérieurs qui sont très forts, mais qui sont cons comme des balais. Mais vraiment, et qui m'exaspèrent, parce qu'ils sont nuls. Non mais, voilà. Bon, alors parfois, quand je me dis ça, je me dis, t'es devenu vieux con. Et voilà. Et c'est vrai. Chacun dans nos domaines, nous le voyons bien. Et la maçonnerie récupère, pas forcément les moins bons, récupère des gens qui sont animés d'une vraie préoccupation, d'un vrai désir, qui ressentent un manque. Le problème, c'est qu'on va les projeter dans un univers qui est très connoté culturellement, qui fait référence
à des tas de choses qu'il faut quand même un peu connaître. Par exemple, l'absence totale de culture religieuse aujourd'hui. C'est dramatique, indépendamment, bien entendu, de l'appartenance ou non à une mouvance religieuse. Mais l'absence totale de culture religieuse. Comment peut-on visiter un musée et regarder des tableaux et les comprendre si on a un degré zéro de culture religieuse? On ne peut rien faire. On va dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi le mec avec les ailes, etc. Bon. On voit ça, par exemple, avec les jeunes musulmans des banlieues qu'on amène dans les musées, et on leur montre des tableaux, des allégories chrétiennes. Et ils ne comprennent pas du tout. Mais là, ils sont excusables. Ils ont une culture qui est une culture musulmane. Par contre, on les amène devant certains tableaux orientalistes, et là, ils disent à leurs copains, « Bah oui, tu vois pas, ça c'est un chèque, ça c'est un machin, ça c'est un truc. » Et ils expliquent tout. Donc ça veut dire que ces références culturelles, elles sont déterminantes. Comment est-ce qu'on peut faire pour pallier ça, sauf à admettre que la maçonnerie va s'aligner sur l'évolution culturelle de nos sociétés qui font qu'on est nourri par la télé, par qui veut gagner des millions, et par des magazines vulgaires et qui nous mentent en permanence. Comment est-ce qu'on peut développer l'esprit critique et la volonté de s'améliorer si on dit aux gens, vous n'avez rien à apprendre, vous n'avez qu'à vous asseoir et à commencer à délirer? Or, malheureusement, c'est le spectacle auquel on assiste dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de loges.
Et alors, par rapport au tableau que tu dresses, il va peut-être falloir choisir une autre voie. Alors, par rapport au tableau que tu dresses, si toutefois ça se perpétue et que ça. Et que...
Non, parce que.
Alors, quelle sera la suite? Parce que c'est
non,
ça
parce
l'histoire.
Que moi, je suis tellement passionné par ça que je trouve que, voilà, il y a vraiment un trésor caché qu'il suffit de révéler. Simplement, pour ouvrir le coffre au trésor, il faut des clés. Il faut des clés culturelles qu'on n'a plus. Et c'est une vraie difficulté. Alors, on essaie de se rassurer en se disant que cette question-là est sinusoïdale. Mais je crois que quand on a dit ça, on n'a rien dit. On dit, vous savez, il y a des hauts et des bas. Alors, comme dit Chirac, dans une de ses plaisanteries favorites, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Moi, je méprise les hauts et je reprise les bas. Bon, voilà. Ça, c'est l'humour chiracien. Mais je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire ça, de dire, en ce moment, on est en bas, ça va être en haut. Non, je ne crois pas que ça va être en haut. Il y a de plus en plus.
Tu penses qu'on pourrait, ce serait jouable de faire ce que le Parti communiste